You know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant. Et bonjour à nos auditrices et nos auditeurs pour cette première émission de Charbons Ardents. Aujourd'hui, on va parler des violences sexistes à l'échelle de l'État et également à l'échelle de l'individu, que ce soit dans la philosophie d'aujourd'hui, les séries, les jeux vidéo, la littérature. On parlera également de vocabulaire et d'espace d'expression de notre propre violence. Mais tout d'abord, on écoute un témoignage.
Charbons Ardents.
Moi, dans le monde, je suis d'abord et avant tout un corps. C'est au collège surtout que le monde est devenu râpeux. Toute interaction était comme du papier de verre, ma peau rougissait des remarques, mes vêtements se flétrissaient au regard des autres, chaque contour de moi était un point de friction. On me disait de sourire, que j'étais trop sauvage, pas bien peignée, les sourcils d'un singe, la gueule d'une rome et les fringues d'une pauvre. On sifflait mon cul, mes mini-seins plus gros que ceux de la copine, mes hanches faites pour porter des enfants, oui, ça, on me l'a dit, en cinquième. Et j'étais fière et humiliée en même temps. Ils ont ce don, ces mecs de 10 ans de plus qui s'arrêtent en caisse pour nous embarquer dans leur soirée quand on a 13 piges et qu'on rentre de l'école, de nous faire croire qu'on doit être flatté alors qu'on brûle de honte comme si c'était notre faute. Cette fameuse phrase des potes de mon père quand j'ai 9 ans et des garçons au collège, « Roule pas du cul, la route est droite. » Mais dis-moi du gland qui t'a demandé de le regarder mon cul et de m'insulter ensuite parce que tu l'as regardé. Les copains des parents, ça fait un bail qu'ils te regardent bizarre. Mais quand c'est le prof de piano qui commence à déconner, à avoir les mains baladeuses et des propos sur sa femme qui dérapent, là, ma mère commence à en avoir marre, pas d'eux, ça non, mais de moi, et à me regarder comme une pute, une fille toujours déjà sale. Râpeux, les regards papier de verre. Les frotteurs du métro à 16 piges, ton beau-père alcoolo qui te tabasse, les profs du post-bac qui disent cash que les mecs seront automatiquement pris, mais que nous, on devra taffer pour de vrai. Les profs qui couchent avec une meuf par promo et qui font du favoritisme au vu et au su de tous. Les profs qui t'aiment bien, alors tout le monde dit que t'as sucé. Pensez moins à tes révisions de concours qu'à tes fringues, ton vernis et tes putains de cheveux, pour pas faire fille qui se néglige, mais pas grosse pétasse non plus. Une étiquette ou bien l'autre, y a que ça des étiquettes, et c'est ça dont on te parle pendant les périodes de révision, pendant que les mecs n'ont qu'à ressortir leur costard et se pointer pour éviter la fameuse et tant redoutée féminisation du métier, l'épouvantail. Ensuite, il y a la corde des crevards en tout genre, ceux qui t'invitent en soirée que parce que tu couches le soir, mais qui te calculent plus le matin. Les copines qui voudraient faire comme toi et qui arrêtent de te parler pour pas être contaminées, catin par association. Tes premiers mecs qui te violent quand tu dors, ils pouvaient pas attendre et puis c'est romantique, et qui glissent d'un trou à l'autre sans faire exprès, qui voudraient bien que tu perdes des kilos par-ci pour en prendre par-là. Les médecins qui te regardent comme une traînée quand tu viens te faire avorter pendant que ton mec est au boulot, chacun ses problèmes. Les miaules, le viol, le premier, puis les suivants. C'est pas des viols en vrai, juste une meuf qui n'a pas fait attention, qui a trop bu, qui est portée ci et faisait ça, et était là. Et sa grand-mère le dit entre le pâté et le fromage. Faut pas exagérer, il y a des femmes qui prennent du plaisir pendant le viol, et fallait voir comment elle était habillée aussi. Mais attends, on l'interrompt? Quelqu'un va dire quelque chose? Quelqu'un va être scandalisé ou choqué peut-être? Non. Juste. C'est pas toujours du viol en plus. C'est juste qu'elles veulent leur minute de gloire. C'est vrai, elles sont légion les violées célèbres. C'est si glorieux de se faire déchirer, salir, utiliser comme un rien, une chose, moins que rien même, et garder ça à vie. Moins héroïque que de buter des gens sur des champs de bataille dans des guerres absurdes, cela dit. Sifflé, coincé, traqué, poursuivi dans des taxis, des ascenseurs, des couloirs, au boulot, en soirée, en journée, de nuit, par des vieux qui vous lèchent le cou dans des bus à Madrid, des bandes de jeunes qui vous montrent leur queue en riant en Sicile, ou des contacts qui vous l'envoient par texto, retrouver un molar sur son manteau parce qu'on n'a pas souri, la bave du crapaud sur la blanche colombe, ça gêne les autres passants qui vous en veulent d'avoir assisté à ça et de n'avoir rien fait. dès qu'ils sortent avec vous parce que vous êtes cassé et qu'ils vous frappent de retour du rugby et vous cassent des os parce que finalement vous êtes trop compliqué, vous n'avez pas su être réparé par la sacro-sainte grâce de leur présence et qui retournent ensuite pleurer dans les jupes de maman. Dès qu'ils veulent être votre ami et qu'ils voudraient bien être plus. Mais t'inquiète, j'ai compris, c'est trop dur pour toi. Mais peut-être quand même tu pourrais coucher avec moi, être un peu à moi. Tu couches bien avec d'autres, des moins gentils que moi. Sans t'entretenir qu'on est dans l'émotion quand un collègue vous harcèle pendant des mois ou qu'un client nous balance qu'on n'est qu'une gamine inexpérimentée qui devrait obéir comme sa fille ou sa femme. Sans t'entretenir qu'on a ses règles quand on a quelque chose à dire, mais que ces règles c'est quand même pas un motif pour rester agonisé chez soi. Le fric dans les épilations, les serviettes, les pilules du lendemain, les médicaments anti-cystite et les tests intrusifs pour voir s'il y a chlamydia après le énième qui t'a pénétré sans protection. Un peu de force mais avec le sourire, désolé tu m'excites trop et je bande pas avec la capote. Les fringues couvrantes mais pas trop, les hôtels trop chers mais dans des quartiers plus safe, les psys, les plaintes, les déménagements pour fuir et les kinés. Les violeurs derrière la caméra, devant, au gouvernement, parmi les potes de tes potes. Toujours la peur, partout, toujours. 30 piges à avoir peur, à essayer de devenir invisible, à avoir mal et des séquelles, dans les os, la peau, le sang et les neurones. Des no-go zones dans les villes et dans la mémoire. Des dangers et des triggers au détour d'une scène de film, une larme, un geste. Accroche tes mains à ma taille et le trauma qui déraille. Je ne me souviens pas d'un temps où je n'ai pas eu peur des hommes. J'ai tellement tout le temps peur que c'est une configuration par défaut. Ça régit mon rapport au temps, à l'espace, à mon corps, à celui des autres. Le truc, c'est que la peur, bah, ça n'évite pas le danger.
We gotta burn this patriarchy down!
Merci Marie pour la lecture de ce témoignage. Dans cette rubrique de Charbons Ardents, on va vous parler système, on va vous parler de concepts, vulgariser des idées pour se fournir des armes et devenir des génies mentales. Donc ce que révèle ce témoignage et dont on va parler aujourd'hui pour introduire un peu les enjeux de l'émission, c'est la banalisation de la violence. Comment elle imprègne le quotidien d'une individu jusqu'à ce que ça devienne finalement un mode de vie transmis, qui appartient à son éducation et qui envahit la vie éveillée et endormie d'une femme d'aujourd'hui. Je dis endormie parce qu'au-delà du viol conjugal et du miol qui ont souvent lieu pendant le sommeil, la grande majorité des cis hétéros mâles rêvent rarement que quelqu'un les viole, les poursuit ou les tabasse. Je dis bien la grande majorité, mais personne n'est totalement à l'abri des mécanismes de violence dont on va essayer de parler aujourd'hui, malheureusement.
T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin. Un sale tapin, tous ces mots doux, c'était que du baratin. On se tenait par la main, on s'enlaçait, on s'embrassait. On verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. T'es juste un démon déguisé en femme. Je dois briser en larmes, je dois rendre l'âme, je dois retourner brûler dans les flammes.
Beaucoup de poésie dans cet instant. Si vous viviez dans un monde dont le sol est en lave et que vous sortiez pieds nus, faudrait pas vous plaindre d'avoir la peau brûlée. Pour les femmes de cette société, le discours est à peu près le même. On part du principe que la norme, c'est qu'elles vont se faire violenter au moins une fois dans leur vie, par une des multiples formes de violences sociales et étatiques qui sont communément admises. Et qu'on conditionne tout le monde à accepter, mais notamment les hommes, qui doivent quelque part la rechercher et même souvent l'exhiber pour s'imposer. On nous enseigne que c'est comme ça, que c'est la configuration par défaut de notre univers. Les femmes sont pieds nus et les hommes sont en feu. Alors s'il nous arrive des broutilles, c'est pas parce que les hommes devraient changer, mais parce qu'on est sortis sans chaussures. Boys be boys, comme disent les Anglais. C'est comme ça, les mecs, on les changera pas. Et si tu fonces dans un mur, il y a plus de chances que ce soit toi qui te fasse mal.
Et oui, parce que c'est la norme, on réussit le magnifique tour de passe-passe de glorifier les hommes durs et de stigmatiser la fragilité féminine, le fameux sexe faible. Il suffit de taper « femme plus fragile » dans une barre de recherche et ça foisonne de dictons, de proverbes et citations en tout genre sur fond de coucher de soleil, histoire de caser ça sur Insta.
Un bel exemple de ces citations populaires, c'est une phrase qui est sortie totalement de son contexte. C'est quatre vers de Molière qui se moque des misos de son temps à travers le personnage d'Arnolphe dans l'école des femmes. Alors Arnolphe, c'est un peu le Woody Allen du XVIIe siècle qui cherche à épouser sa fille adoptive, on l'écoute.
Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là.
Dans cette captation de la pièce qu'on vient d'entendre, il faut savoir que les gens sont morts de rire après cette diatribe.
Et oui, et les internautes nombreux qui la citent au premier degré reprochent aux femmes à la fois d'être fragiles, mais aussi d'en avoir marre accessoirement. En gros, tu t'acharnes sur un objet, il se casse, c'est pas toi qui es une brute épaisse, c'est l'objet qui est fragile. Ou alors tu martyrises un pote, il commence à plus pouvoir te saquer, bah, c'est lui qui est méchant et pauvre de toi. On croit rêver.
Depuis MeToo, on parle enfin un peu plus de ces phénomènes d'imprégnation, des effets que ça fait de baigner dans un ensemble socioculturel qu'on absorbe comme des éponges, sans y réfléchir, sans se rebeller. Mais un tout, un bain, c'est formé d'une myriade de petites gouttes, de complicité qu'on ne soupçonne pas et que, par confort, on n'a pas envie de soupçonner de participation à un régime d'oppression. Or, ils sont nombreux dans notre quotidien à jouer un rôle dans la construction d'une culture du viol et de la violence, verbal, physique, économique et social.
Nos séries préférées, nos chansons de soirée, les insultes qui affleurent aux lèvres, les blagues entre potes. Sans s'en rendre compte, on transmet des messages continuels que la communauté féminine, les non-blancs et les non-blanches, les LGBTQIA+, les non-valides, les neuroatypiques, queer, trans, personnes sortant de toute norme physique marketing, sont inférieures, synonymes d'injures, d'humiliation et de rire moqueur.
Dans cette première émission, on va se concentrer sur la violence sexiste à l'égard des femmes de manière générale. Les mécanismes et engrenages qu'on essaiera de montrer sont en réalité valables pour toutes les minorités, mais bon, bah, on n'a qu'une heure.
J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée.
Ah, ce Michel Sardou, quel poète! L'idée de Charbons Ardents, c'est de se donner des armes pour décrypter pourquoi telle série, tel film, tel discours nous met mal à l'aise ou devrait nous mettre mal à l'aise, pour oser dire aussi qu'on n'en veut plus et pourquoi.
Et puis dans un débat, on n'a pas toujours les références ou les mots qui viennent directement. Il y a d'abord ce qu'on appelle la sidération, qui est un phénomène de pétrification face à des gestes ou des propos qu'on vit comme violents. Ces merveilleux moments où on se rend compte dans la douche de ce qu'on aurait dû sortir dans un instant d'énervement. Face à un ou parfois même une miso qui s'assume, et il et elle sont assez nombreuses, c'est difficile de réagir à chaud. Enfin, lire des bouquins théoriques, c'est pas toujours tentant ou pas toujours faisable, ce qui rend plus facile pour le camp adverse de tout déformer.
L'arme théorique du jour qu'on va présenter dans les grandes lignes et rapidement synthétisée, c'est l'idée du psychisme de l'impuissance de la philosophe Elsa Dorlin.
L'idée de cette première émission de Charbon Ardent sur Prune, ce n'est pas de décrypter ce qu'elle dit parce que pour le coup, en plus de proposer une vraie convergence des luttes et une réflexion concrète qui est bien articulée au réel, Elsa Dorlin est super claire et elle est très accessible. On veut juste vous donner quelques outils de défense à réutiliser et pourquoi pas à creuser avec une de ses conférences passionnantes qu'on mettra sur la page de l'émission. Vous pouvez également découvrir sa pensée dans son livre « Se défendre » aux éditions La Découverte.
Alors le psychisme de l'impuissance, qu'est-ce que c'est ? Si on analyse les deux mots, on comprend que c'est l'idée de conditionner les gens, intégrés dans leur programme par défaut, qu'ils ou elles sont impuissants, sans défense, désarmés et vulnérables à des formes de violence qui sont attendues, légitimes et donc bah, normales en somme.
Avec cette idée, Elsa Dorlin explique que, en gros, dès tout petit et toute petite, on fait comprendre à certaines catégories de vie que le recours à la violence n'est pas pour elles, soit parce qu'elles n'en sont pas capables, soit parce que ce sera puni très fort. Alors comment on fait ça ? On va passer à travers les dessins animés, la télé, la pub, la représentation de certaines catégories dans certains rôles et surtout pas dans d'autres rôles. On fait ça aussi dans nos modèles de couple, dans nos modèles familiaux et dans l'accès à ce que Dorlin appelle des armes. Alors nous aussi on va appeler ça des armes, mais c'est pas forcément des armes réelles. On pense plutôt à des armes qui sont intellectuelles et des armes économiques. Avoir l'argent, déjà c'est une arme. Mais avoir les mots, les références, le statut social pour se défendre, au final c'est réservé à une toute petite élite.
Oui, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Si on prend le temps de se demander contre qui on va pouvoir se défendre à ce stade d'évolution de notre perso, la liste est plus ou moins longue en fonction des catégories. Ça peut varier de votre doudou en guise de didacticiel au président de la République, mettons, pour le boss de fin. Bon bah, prenez deux secondes pour y penser. Où s'arrête le niveau de votre perso actuel ? Contre qui vous avez intégré que vous resterez définitivement sans défense ? Et quand on y réfléchit, est-ce que c'est tout à fait normal ?
Alors, si on déroule les idées de Dorlin, en gros, en cinq points intéressants à réutiliser, elle commence par expliquer que quand on s'organise en société, il y a un certain stade où on va donner l'autorisation à l'État de faire preuve de violence à l'égard du peuple. Alors, cette violence, elle est considérée légitime quand elle est punitive et elle est censée nous servir à ce que nous, on n'utilise plus la violence. Dans un deuxième temps, elle explique que les individus ont un droit à ce qu'on appelle l'autoconservation. Donc c'est un droit inaliénable de chaque individu à conserver sa vie. Et c'est selon elle un droit naturel qu'elle explique à travers la philosophie classique. Donc on a le droit de se battre pour assurer sa propre survie. Donc c'est des concepts qui sont repris aujourd'hui, par exemple dans la robotique. Asimov, dans la science-fiction, avait établi 3 lois de la robotique. Et même les robots ont le droit à l'autoconservation. Ils ont aussi le droit de se défendre. Donc, ergo, nous aussi. Seulement, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, à un certain stade où on a justement dit à l'État, sois violent à notre place pour nous défendre, pour assurer notre autoconservation, l'État s'est dit, oui, mais il y a des catégories qu'on va défendre et il y en a d'autres qu'on va désarmer. Donc, ces catégories qui sont désarmées, en fait, les exemples que Dorlin prend, ils sont assez clairs. Elle passe par l'exemple de la colonisation du continent américain, où elle explique que quand les colons sont arrivés, ils ont décrété que parce qu'ils exploitaient la terre et qu'ils en faisaient sortir des fruits, les Native Americans, qui étaient plutôt des cueilleurs et chasseurs, avaient moins de droits qu'eux à revendiquer la possession de la terre. Et de ce fait-là, l'État, c'était eux, et donc pouvaient utiliser de la violence à l'égard des Native Americans. Par extension, bien évidemment, on a surtout désarmé les esclaves déportés du continent africain en leur déniant totalement le droit à s'autoconserver. Alors les désarmer, évidemment, ça passe par les empêcher d'avoir accès à des armes réelles, mais ça passe aussi par les empêcher de se réunir pour pouvoir essayer de fomenter des révoltes. Et ça passe surtout par leur dénier le droit à garder un lien avec leurs enfants, à transmettre leur culture et avoir accès à l'éducation.
Et à partir de ce point-là, j'ai défini la violence, ou en tout cas ce que j'ai voulu comprendre, c'est la violence en tant qu'autodéfense. Et donc la question non pas de la légitimité ou de l'illégitimité de ce recours à la violence, mais cette idée que dans certaines situations historiques et politiques, la violence est un élan de conservation de sa vie et qu'elle est de toute nécessité.
Alors dans cet extrait d'une conférence de Dorlin, on entend bien ce à quoi sert l'autoconservation et que du coup elle peut déboucher sur l'usage de la violence. Donc parmi les catégories de vivants à qui on a dit oui mais en fait non, pour vous ce ne sera pas possible d'avoir recours à la violence, il y a les femmes, donc c'est un peu le quatrième point qu'elle développe dans sa pensée. Dans la construction de genre, dans la construction du corps féminin, il y a vraiment cette idée qu'on est d'emblée désarmé. C'est-à-dire qu'on va mettre les filles dans des robes et puis en leur disant bien que par contre, il ne faut pas qu'on voit leurs culottes. On va les habiller dans des couleurs claires qui font qu'elles peuvent aller moins s'aventurer à se salir, beaucoup moins se battre. On va leur réserver des jeux qui sont moins violents et des sports qui sont moins violents. Et donc du coup, à travers tout ça, mais aussi à travers un discours qui leur dit de faire attention à elles, de ne pas sortir à certaines heures, dans certains lieux, habillées d'une certaine manière, on intègre un petit peu, comme dans un ordinateur, l'idée par défaut qu'elles sont fragiles. Et à partir de ce moment-là, la possibilité d'être offensive pour se défendre ou défendre leurs idées n'est absolument pas dans leur tête. Elles sont perpétuellement mises dans une posture d'être sur la défensive. Et dans ce cas-là, à la fois dans leur imagination, mais aussi dans l'imagination du genre de l'autre, du genre masculin, il y a vraiment cette idée que la violence est impossible pour les femmes.
Vous pouvez comprendre cette idée dans un sens beaucoup plus large. Désarmer, c'est empêcher par exemple d'accéder à des armes qui peuvent être des armes intellectuelles, des armes culturelles, qui peuvent être des ressources sociales qui permettent justement de ne pas être laissées sans défense, etc. Donc on a vraiment des processus comme ça de désarmement pour produire des catégories de vie qui sont sans défense.
Donc à nouveau, il y a vraiment cette idée de désarmement. Et donc, pour terminer un petit peu sur les points que vous pouvez citer de Dorlin quand vous essayez d'expliquer comment ça marche un peu d'être désarmé de base, pas de votre faute, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne, elle fait une distinction donc, entre cette violence de l'État qui a été décrétée légitime et que peu de gens sont capables en fait, de remettre en question en disant « est-ce que c'est vraiment toujours légitime à ce stade-là » et la violence de réaction, en fait, de ces corps qui ont été opprimés, désarmés, qui en ont assez. Et on n'a jamais montré qu'ils pouvaient être violents ou avaient le droit d'être violents, pas même pour leur autoconservation. Et donc c'est ça, aujourd'hui, dont on veut parler. Pourquoi c'est problématique?
Pour résumer, la violence de réaction aux abus de l'État est considérée comme non politique, comme destructrice et comme illégitime. Elle est vue par le reste de la population comme un tabou, un interdit du fait de notre construction, du fait de l'absence de représentation de ce type de violence dans nos objets culturels aussi. On nous a donné à voir, dans les jeux, les séries et les films, des personnages dont la violence nous faisait du bien, se justifiait en punition d'un méchant ou d'une méchante, dont le comportement était montré comme mettant en danger la communauté. Mais quand il s'agit d'une violence de réaction à un régime oppressif, on ne cautionne pas de la même manière.
Alors pour donner des applications concrètes, Dorlin utilise un exemple qui est très édifiant. On se souvient qu'en 2005, Ziad et Bounia, qui étaient deux adolescents de Clichy-sous-Bois, ont été électrocutés dans un transformateur en essayant d'échapper à un contrôle de police. Ils vivaient dans un contexte où les contrôles étaient récurrents, abusifs et souvent très violents, où ça relevait clairement du délit de faciès, et donc on peut comprendre pourquoi ils ont essayé d'y échapper par tous les moyens. Alors à l'époque, cette mort brutale met le feu aux poutres, parce qu'on est dans un contexte français qui est déjà très tendu, et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on a appelé les émeutes de 2005. Alors déjà, ça pose problème, qu'on appelle ça des émeutes, ou même parfois des incidents, mais jamais une révolte. Or c'est bien de ça qu'il s'agit. Une révolte, une rébellion, une révolution contre un pouvoir qui parle à l'époque de nettoyer les banlieues au Karcher et de renvoyer les racisés par charter. Mais on ne reconnaît pas la valeur politique d'un tel mouvement, on le traite comme un cri inarticulé de pure violence, qui est synonyme du coup de peur pour le public français. Et donc il est parfaitement impossible de s'y identifier.
Pour faire un parallèle peut-être plus accessible, on peut penser à l'affrontement qui structure l'intrigue du film Black Panther. On y met en scène, enfin, un super-héros noir, mais son ennemi est noir. Entre le roi T'Challa et son cousin Killmonger, c'est la reproduction du dilemme qu'incarnent Martin Luther King et Malcolm X entre rester sage et provoquer le changement par les voies institutionnelles ou revendiquer le droit à la rébellion armée sur le modèle de la Révolution française au passage.
Alors à ma gauche, T'Challa, alias Black Panther, a grandi dans le confort, prend les rênes d'un pays richissime et utopique avec un gros budget recherche et développement. À ma droite, Killmonger a vécu l'existence beaucoup plus réaliste d'un gamin noir orphelin qui grandit dans les banlieues de pays dominés par les Blancs. Et il est vénère. On peut comprendre pourquoi. Son tort dans le film, utiliser la violence pour se venger. Et si on y regarde bien, il et elle sont nombreux, nombreuses dans nos fictions à être punis pour avoir eu recours aux armes de l'oppresseur. Uniquement parce que ces armes, bah, elles appartiennent à l'État, et à lui seul.
Alors du coup, on a peur d'être violent ou violente, parce qu'on nous a dit que c'était pas beau une femme en colère, pas féminin une femme qui boxe. Parce que surtout, on a peur que ça décuple, l'agressivité en face, et qu'on a le droit au self-défense, mais en défense, pas en attaque. Et surtout, seulement et uniquement en dernier recours.
C'est une illustration de sa pensée qu'utilise Dorlin. Elle dit qu'on porte des masques, alors là elle fait référence au philosophe Fanon, et elle explique qu'en fait à force d'intégrer comme ça toutes sortes d'interdits, d'idées que c'est pas pour nous, c'est pour les autres, en fait on se construit des masques, les autres aussi d'ailleurs. Un de ces fameux masques, c'est ce fameux sourire qu'on requiert de la part des femmes. Sourire qu'on réclame au travail, sourire quand on se fait harceler dans la rue, insulter, siffler. Il n'y a même pas de mots pour ce petit truc-là. Sourire pour éviter que la violence aille plus loin, qu'elle escalade. Sourire pour qu'on nous foute la paix. Sourire pour redevenir invisible en leur donnant ce qu'ils veulent. Le sourire en somme de la Joconde qui n'est même pas en train de penser « va te faire foutre, sale merde », mais qui déroule juste en mode survie, en mode panique, toutes les possibles conséquences horribles de cette situation où un type les poursuit dans la rue, les éventuelles possibilités de fuite, les évitements possibles. Est-ce que mes clés sont à proximité de ma main ? Et je calcule combien de temps il me faudrait pour choper mon téléphone. Alors penser à tout ça et sourire en même temps, c'est quand même un petit peu relou.
Alors perso, moi quand on me demande de sourire dans la rue, je réponds « je peux pas, j'ai la chiasse » et en général ça me laisse le temps de m'enfuir tranquillement. Alors après ça, on a passé des siècles à reprocher aux femmes leur duplicité, leur capacité à faire semblant. Mais rien que ça, pétard, sourire quand tu te fais agresser pour que ce soit pas pire, on en parle. Sourire quand on te marie de force parce que la punition, c'est les coups ou le viol. On fait semblant parce que les conséquences sont douloureuses et on apprend très vite, dès l'école primaire, avec ses longs cheveux que les garçons adorent tirer. Le corps féminin est une interface avec un monde épineux d'où peuvent provenir des violences multiples, dont certaines se disent bien intentionnées, et toutes laissent des séquelles.
Alors, ceci étant dit, dans toute monnaie, il y a un revers et toute arme est à double tranchant. Donc, en fait, ce fameux masque qui est porté par le féminin et qui est imposé par la société, il existe aussi chez les hommes. En fait, la construction de cette merveilleuse virilité toxique ne fait que des victimes. Donc là, on va vous proposer une autre arme de débat du jour parce que justement, en fait, quand on est féministe, un des gros problèmes auxquels on se heurte, c'est les hommes qui disent « Ah oui, mais moi, je suis humaniste. Voilà, je suis pour l'humanité, je suis pour l'égalité de tout le monde. » Alors, gros spoiler, nous aussi, en fait. Hein, c'est ça, le principe du féminisme. Et nous, justement, on a remarqué un truc, c'est que la virilité toxique, ça a réussi à strictement personne. Si la phallocratie fait des victimes chez les femmes, elle en fait aussi chez les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que Chimamanda Ngozi Adichie, dont on reparlera à coup sûr dans une autre émission, a appelé son discours « We should all be feminists ». Nous devrions tous être féministes. Donc ça, c'est pas que pour les femmes, le féminisme. C'est aussi pour se débarrasser de l'affreux modèle qu'est la virilité toxique. S'il y a violence, il faut bien qu'il y ait un bras pour le porter.
Stop crying.
Don't cry.
Stop with the emotion.
Pick yourself up.
Don't be a chump.
Don't be a pussy.
Don't let nobody disrespect you.
Be cool and be kind of a dick.
Always keep your mouth shut.
Nobody likes a tattletale.
What a fag.
You little bitch.
Don't let your woman run your life.
Bros come before hoes.
Get laid.
Be a man.
Be a man.
Grow some balls.
So man up.
Man up.
Man up.
Man up.
Grow some fucking balls.
Act like a man.
Be a man.
Un superbe exemple qui décrypte bien ces mécaniques de masculinité toxique, c'est le film et projet de Jennifer Sybel Newsom qui s'appelle « The Mask You Live In », donc le masque dans lequel tu vis, enfin on vit de manière générale, qui est sorti en 2015.
Alors dans ce documentaire qui est très très bien fait, elle confronte les interviews de différents intervenants, donc des éducateurs, des gens dans le milieu du sport, des neurochirurgiens, qui essaie de montrer qu'en fait, comme le cerveau est plastique, ce sont les injonctions extérieures qui vont conditionner notre développement, notre manière de penser et aussi notre identité de genre. Alors c'est un film qui se concentre uniquement sur la construction de la virilité. C'est orienté très américain parce qu'ils essayent en fait de montrer la corrélation entre la construction du masculin et les violences qui ont lieu très souvent dans les lycées américains. Et donc, il commence notamment par expliquer que l'immense majorité des hommes a entendu les injonctions dont on vient d'entendre un bel échantillon dans l'extrait, soit un homme. On a tous déjà vu des gens gronder leurs enfants en leur disant « les grands garçons, ça pleure pas ». On connaît même des exemples de gens qui s'inquiètent quand leur petit garçon est trop sensible, trop collant et exprime trop ses sentiments. Alors... un fait très intéressant dont il parle dans The Mask You Live In, par exemple, c'est qu'on note que vers 7 ans, il y a une disparition du vocabulaire émotionnel chez les garçons, qui se sentent un peu obligés de ne plus exprimer leurs sentiments. Et étrangement, c'est aussi le moment où le nombre de suicides infantiles double chez les garçons, alors qu'il reste stable chez les filles. Donc quand on vous dit que la virilité toxique, ça fait des victimes de tous bords, ben, c'est assez intéressant de voir à quel point dans ce très très bon documentaire qui est disponible sur YouTube.
Et pour illustrer un peu tout ça, on aime bien terminer sur une note de mythe dans Charbons Ardents, parce que les mythes, tout le monde les connaît, et malheureusement, eux aussi, ils sont porteurs de masques.
Alors aujourd'hui, on va parler de Médée. Donc Médée, en gros, c'est une sorcière. Donc déjà, ça commence mal pour elle, une sorcière de Colchide. Son papa possède la toison d'or qui attire l'envie de plusieurs aventuriers, dont le fameux Jason, qui s'appelle aujourd'hui Jason, et qui vient avec toute une bande de héros, les Argonautes, essayer de prendre cette toison d'or. Et c'est le début d'une histoire dans laquelle c'est Médée qui fait tout le boulot. Donc voilà, charge mentale déjà à l'Antiquité.
Oui, c'est pas nouveau, hein.
On n'a rien inventé. Donc, elle vainc des dragons, elle tabasse des taureaux, elle va jusqu'à démembrer son propre frère pour jeter ses membres dans l'eau et ralentir son père lors d'une poursuite à 100 à l'heure sur des navires de l'époque.
J'attends le film, franchement.
Ça reste de donner. Et à un moment donné, ils sont réduits en esclavage. C'est quand même elle qui les sort de là, toujours de manière extrêmement sanglante, avec une petite scène de castration à la clé. Que du bonheur. Et pour terminer, quand il se réfugie dans une ultime ville, Jason dit à Médée « Je suis désolée en fait meuf, je vais te répudier parce que je vais épouser la fille du roi sur place, devenir roi moi-même, donc, et garder les gosses par ailleurs. Donc si tu pouvais te casser, ça m'arrangerait. »
Merci d'être venu m'aider, mais j'ai plus besoin de toi.
Merci d'être passé, j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc évidemment, Médée n'est pas très très ravie, alors elle décide de tuer sa rivale, tuer le roi, tuer ses enfants et de se barrer sur un char tiré par des dragons. Alors Médée, c'est un petit peu cette image ultra fascinante d'un exemple de femme qui ose être violente. Alors, elle a été réécrite de nombreuses fois parce que justement, elle fascine totalement la pensée encore aujourd'hui. On lui invente différents motifs. On va jusqu'à dire qu'en fait, elle a probablement pas tué ses enfants, que c'était juste une version politique pour stigmatiser la figure de l'étrangère. Mais il y a néanmoins cette idée que quand même, on a là l'exemple d'une femme qui utilise les outils des hommes de l'époque, parce qu'à l'Antiquité, c'était quand même assez hardcore, assez sanglant. Elle le fait, et donc elle est vue comme cette espèce de monstre unique en son genre. Action !
Vous écoutez Charbon Ardent sur Prune 92 FM. Dans cette rubrique, on va décortiquer un objet culturel problématique pour montrer l'importance de ce qu'on regarde sur la construction de nos opinions, nos croyances et nos visions de nous-mêmes. On va parler de rouge, on va parler de servante.
J'aimerais en savoir plus sur cette place sacrée que vous occupez justement. Avez-vous fait le choix d'être servante ?
Cette fille était une offense à Dieu.
Est-ce que vous avez compris ?
Mais Dieu vous a trouvé une utilité. Pitié, laissez-moi sortir.
Alors, comme le laisse deviner cet extrait du trailer de la saison 3, l'objet culturel problématique du jour, c'est la servante écarlate. Alors oui, ça peut surprendre, parce qu'elle a très vite pris sa place au grand panthéon des séries féministes. Mais c'est souvent comme ça, quand une cause commence à devenir un peu populaire, il y a un arbre qui pousse et qui vient cacher la forêt.
Cette série s'inspire d'un roman d'anticipation incontournable de Margaret Atwood. Publié en 1985, cette dystopie se situe dans un futur proche où la religion domine sous un régime totalitaire, où les femmes sont dévalorisées jusqu'à l'asservissement. Ces dernières sont séparées en catégories selon des rôles très spécifiques et divisées en classes. L'héroïne et narratrice de l'histoire, de Fred, fait partie de la classe des servantes qui sont destinées à la reproduction. Car dans ce futur, dépeint par le roman, le taux de natalité est très bas à cause de la pollution et des déchets toxiques de l'atmosphère. Ça me rappelle quelque chose. Ce qui donne au récit de Margaret Atwood un tel impact, encore aujourd'hui, c'est notamment le fait qu'elle n'a rien inventé pour créer son univers. Elle s'est en effet inspirée de plusieurs faits historiques, comme l'identification des classes de la société par des couleurs ainsi que les camps lors de la Seconde Guerre mondiale, ou la société puritaine américaine à partir du XVIe siècle, dont le costume rouge à coiffe blanche constitue un clin d'œil. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans cette série ? Eh bien, il y a un premier point qui concerne le revenge porn, que l'on voit à partir de la saison 2. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la série commence à bifurquer par rapport au livre, puisque, en fait, le livre ne décrit que ce qui est montré dans la saison 1. Donc ce revenge porn, il peut être un trigger, c'est-à-dire un déclencheur très important pour les gens qui ont subi des traumas et ça peut également être un trigger ultra plaisant pour les sadiques qui aiment faire souffrir les femmes. Donc c'est pas vraiment ce qu'on espère comme résultat d'une œuvre féministe.
Effectivement.
Y a des scènes très sadiques, trop sadiques, de femmes violentées et humiliées au point de tourner au BDSM, exhibition de la violence qui pose problème. On montre pour démontrer, soit, mais montrer pour en faire un objet esthétique, non, c'est vraiment pas ce qu'on attend de ce genre de série.
Effectivement, et puis un autre souci qui surgit à partir de la saison 2, donc quand on commence à s'éloigner d'Atwood, c'est la glorification d'actes de rébellion du personnage de Fred. Alors dans le roman, elle ne se rebelle pas, ou alors quand elle se rebelle, c'est vraiment des micro-mouvements, des petites choses qui paraissent du coup accessibles. Mais parce que toute rébellion est en fait totalement impossible puisque on est dans un état totalitaire avec un fonctionnement extrêmement violent et une surveillance de tous les instants. Or, dans la série, elle parvient, malgré les menaces, malgré la violence totalement excessive, à montrer ouvertement son refus. Donc c'est une sacrée révolutionnaire. Alors ça s'est sorti la plupart du temps de scènes dignes d'un clip avec un peu de musique pop. Mais le problème, c'est que ça crée une distanciation en fait, avec les spectatrices, parce que l'idée, c'est de nous montrer que la révolte est à portée de main, qu'elle est accessible. À partir du moment où les actes sont trop démesurés, parce que le danger est trop grand, bah, nous, ce qu'on va ressentir, c'est « Ah, moi, j'aurais pas été capable de faire ça, en fait. Je serais pas capable d'être héroïque, donc on se sent coupable. » Donc loin d'offrir un modèle de refus du patriarcat qui nous serait à portée de main, on tombe à nouveau dans une sorte d'épique hollywoodien, c'est-à-dire c'est vraiment une héroïne, une sorte d'individu unique, un modèle d'élite, une sorte d'élu en fait, qui n'est pas nous. Notons au passage qu'aucun de ces actes n'aboutit en réalité à quoi que ce soit, si ce n'est à la mort de ses potes. On repassera pour la sororité ou d'ailleurs pour l'idée qu'il y a un message politique durable derrière les petits actes de rébellion.
Tout à fait. Et pour finir, ce qui est encore problématique dans cette série, c'est la récupération marketing du truc qui pose vraiment problème. Au lieu de s'arrêter à la saison 1 et de respecter le cadre du roman, ils en sont à 4 saisons avec une 5e qui est en tournage, il me semble. Donc autant dire qu'ils aiment traire la vache à lait, et quand on voit les débilités de soirées spéciales de Handmaid's Tale comme des déguisements vendus en mode en plus sexy servante écarlate, merci Halloween, les vidéos de Kylie Jenner déguisée en servante pour faire la fête, ou même il y a des mariages qui ont été organisés aussi avec des bridesmaids, des demoiselles d'honneur en servante écarlate devant un mur ensanglanté, on se demande vraiment qui a compris le sens du message d'Atwood.
Vive le bon goût et vive les bonnets qui cachent la droite et la gauche.
Alors en termes d'adaptation de la même autrice, la série Captive s'en sort beaucoup mieux en évitant de survisibiliser les actes de viol et de violence et en montrant une héroïne presque toujours en maîtrise d'elle-même, ce qui est en soi un acte héroïque au vu de ce qu'elle traverse.
Donc Captive, à toutes, se base sur un fait divers du 19e siècle où une jeune femme se retrouve associée à un meurtre puis condamnée à perpétuité. On va pas en dévoiler beaucoup plus, mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on ne profite pas du sujet pour montrer ces très très probables agressions sexuelles sadiques par des médecins d'hôpitaux psychiatriques. On les laisse deviner. Et c'est là où on veut en venir en fait, parce que là où c'est fort, c'est que pour les spectateurs et spectatrices qui ont eu la chance d'éviter toute forme de trauma dans leur vie, ça leur permet quand même de pouvoir imaginer. Quant à toute personne qui a déjà vécu ce genre d'expérience, on peut s'y projeter sans avoir à la revivre, se dire qu'on n'est pas seul, mais également ne pas avoir à penser que notre expérience est moins grave. Parce qu'en fait, le problème de la spectacularisation hollywoodienne des scènes de viol et d'agression sexuelle, ou d'agression tout court d'ailleurs par Hollywood, c'est que dans la vraie vie, quand on se fait agresser, on n'est pas spectatrice. On est à l'intérieur, c'est chaotique, ça part dans tous les sens. On n'a pas le recul nécessaire pour voir la réelle violence que verrait un témoin extérieur. Il n'y a pas non plus les effets sons, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lumière. Et donc, en fait, on finit par atténuer ce qu'on a vécu. Et ensuite, à chaque fois qu'on voit une scène d'agression sur écran, on se dit que bah, ça, c'est plus impressionnant et qu'à côté, ce qu'on a vécu, bah, c'est de la gnognotte.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Et on est toujours sur Prune, 92 FM. Aujourd'hui, sur Charbons Ardents, on parle de violence patriarcale, comment la montrer sans l'exhiber, la dénoncer sans l'esthétiser, montrer que celle qu'on subit est anormale et que l'utiliser en représailles serait mérité. Et dans cette rubrique, on va parler d'armes pour créer une autre culture que celle du viol.
En voilà une bonne idée. C'est ainsi que sont formées les femmes, esclaves. Elle ne sera pas esclave. Elle éprouvera ce besoin d'aider son père, mais elle n'en fera rien. Elle pleurera son frère et s'agenouillera parmi sa dépouille démembrée. Mais elle jettera un nouveau morceau par-dessus bord quand le moment viendra. Elle ne se laissera pas dompter. S'il est naturel d'être esclave, alors elle sera contre nature. Ceci est un extrait du roman de David Vann, L'obscure clarté de l'air, qui reprend l'histoire de Médée, une Médée qui assume totalement sa violence.
Et oui, parce que la culture, c'est comme la confiture, paraît-il. Ce qui serait bien, ce serait d'en étaler une qui ait bon goût. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite sélection culturelle qui donne à voir des femmes puissantes, des femmes qui crient, des femmes qui tapent, qui se défendent, histoire de se reconstruire un psychisme empouvoirant qui ferait du bien à tout le monde.
Never forget what it is like to see the world as a child, Samuel. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea.
Vous êtes sur Prune et vous écoutez un extrait de Senua's Sacrifice, le jeu Hellblade Ninja Theory dont on va parler maintenant. Donc premier objet culturel alternatif, un petit jeu, bah ouais, pourquoi pas, parce que les jeux vidéo c'est aussi pour les meufs. Donc aujourd'hui, on parle d'un petit jeu vidéo low budget qui a été créé par une trentaine de personnes et qui a totalement créé la surprise parce que c'est un objet magnifique malgré ses conditions de création de départ. Donc on saluera en particulier le jeu de l'actrice Melina Jurgens qui a eu le BAFTA Awards 2018 pour l'interprète et qui prête ses traits à l'héroïne de ce jeu. Alors Senua, qui est-ce ? Donc, on est ici dans un univers celtique, nordique, viking, picte. Et donc on suit l'histoire de cet Orphée celtique qui part à la recherche de son amant, Dillion, dont elle transporte quand même la tête à la ceinture. Donc déjà, ça pose un peu l'ambiance. Et elle va affronter des démons pour tenter de le ressusciter en rencontrant la déesse Hela. Alors comme l'extrait le montre... Senua entend constamment des voix dans sa tête. Le jeu a été conçu en collaboration avec des spécialistes de médecine psychiatrique, mais également avec des gens atteints de différentes psychoses. Donc ces voix, au début, peuvent être très insultantes, dévalorisantes, mais également encourageantes. Et au fur et à mesure de son aventure, on va remarquer qu'elles s'amenuisent pour ne plus laisser que les voix protectrices, celles qui viennent l'avertir des dangers pour la protéger, plutôt que les sabotrices qui disent qu'elle n'y arrivera jamais. Senua affronte des monstres absolument horrifiants. Elle fait preuve elle-même d'une violence qui est assez cathartique. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle meurt, il y a une sorte de tache noire qui progresse et qui va obliger, si jamais elle recouvre entièrement Senua, le joueur ou la joueuse à recommencer à zéro. Chaque étape de son périple se solde par un flashback où on découvre un peu le passé de cette héroïne particulière, notamment la figure de son père abusif qui l'a convaincue très jeune qu'elle était corrompue, porteuse de ténèbres et d'une pourriture qui détruirait tout autour d'elle, rien que ça. Alors du coup, de ce fait, il considère qu'elle serait tout aussi bien enfermée et qu'elle devrait rester sous sa coupe. Alors c'est finalement contre lui et contre toutes ces croyances dévalorisantes et inhibantes qu'il a intégrées en elle que Senua se bat comme une forcenée, seule et sans aucune aide extérieure, avec des combats qui atteignent une certaine violence tout de même. Donc toute personne peut se projeter dans son rapport à cette figure d'autorité rabaissante. On a tous et toutes déjà croisé des gens qui ont intégré dans nos têtes cette petite voix qu'on entendra ensuite toute notre vie de « tu vas jamais y arriver, tu peux pas, t'es pas capable ». Alors c'est à plus ou moins fort degré, mais en tout cas ici, quel que soit le degré de traumatisme familial ou non d'ailleurs qui a été vécu, c'est pas pour autant trigger, parce que justement on va pas non plus nous montrer les tenants et les aboutissants de cette violence parentale qu'elle a subie. Alors Senua, elle est toujours couverte de sang, elle est surtout couverte tout court, ce qui nous change un peu des héroïnes habituelles de jeux vidéo, mais surtout elle ne renonce jamais. Et même si elle est perpétuellement en état de panique et au bord des larmes, et c'est magnifiquement servi par la performance de Melina Jurgens, son acharnement tient à sa pure volonté, celle de se rebeller contre son père. Et même si l'amour est son déclencheur premier, elle va devoir cette évolution qu'à elle-même. Donc il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas d'intervention de Dieu. D'ailleurs, les dieux qu'on voit, ils tiennent beaucoup plus du cauchemar. C'est plutôt en fait en réalité des allégories de notre inconscient. Donc le message est donc affronter une vie avec les cicatrices, les souvenirs traumatiques, la mort, la perte, la peur. C'est possible et tel est finalement l'enjeu de la quête de Senua dont la profondeur ici dépasse largement les habituels jeux de ce genre. Donc c'est une quête en somme qui est plus féminine par ses valeurs que le traditionnel combat pour le pouvoir puisque c'est ici une quête pour rechercher une sorte d'équilibre mental. Sa combativité, malgré ou plutôt avec ce qui serait considéré comme des fragilités, fait beaucoup de bien. Et si le premier opus s'appelle « Le sacrifice de Senua », cette idée sera a priori dépassée dans le 2. C'est terminé, les femmes qui se sacrifient. Et donc le 2 s'appellera « La saga de Senua ». La bande-annonce est sortie en 2020 et on y voit une Senua assez impressionnante dont les démons feraient bien d'avoir peur à la tête de ce qui semble être désormais une armée.
Et bien en tout cas, moi ça m'a donné très très envie d'y jouer. Et parce que déconstruire l'idée qu'on mérite la violence, que c'est normal de la subir, ça passe aussi par faire comprendre aux agresseurs qu'ils n'ont pas le droit, et ce que ça ferait si la situation était inversée, on vous recommande également la lecture du roman de Naomi Alderman, Le Pouvoir, qui est sorti en 2018, me semble-t-il. Il s'agit donc d'un récit qui flirte avec l'anticipation, tout comme La Servante écarlate qu'on a cité un petit peu plus tôt. L'écrivaine britannique donc Naomi Alderman raconte ici un monde dans lequel les femmes sont tout à coup capables de générer entre leurs mains un faisceau électrique paralysant, voire mortel, en fonction de comment elles l'utilisent. Les hommes se mettent à avoir peur et s'organisent, ils entrent en résistance et forment une armée. Alors, on suit plus précisément quatre personnages féminins dans un récit chronologique qui va de la prise de conscience des femmes de leur pouvoir à la possible apocalypse. Alors, est-ce un roman d'anticipation ? On n'est pas sûr, parce qu'au final, cette fiction n'est jamais précisément inscrite dans un futur proche, puisqu'elle est rédigée au présent de narration. Donc, peut-être alors qu'il s'agit de notre présent, voire même de notre passé. C'est toute l'intelligence de son autrice qui vient brouiller les signaux et cela permet de mettre à plat les comportements humains, femmes et hommes confondus, face au pouvoir, à la politique, mais surtout à la violence.
Tout le monde sache que ça fait d'avoir mal.
Oui, oui, oui.
Dans ce monde, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Et je ne me laisserai pas contraindre à la soumission.
Vous avez lu la réplique masculine.
Oh, mince.
Est-ce que vous voulez reprendre ?
Oui, bien sûr. Je ne me laisserai pas contraindre à la soumission. Pardon, monsieur, votre femme est sur la ligne 2.
Alors, pour finir, à vous qui rêvez de vous faire une permanente, de vous glisser dans un juste corps doré et de vous taper dessus sans vous faire un cocard, allez mater ou remater Glow, les Gorgeous Lady of Wrestling, dont on vient d'écouter un extrait.
Mais oui, c'est tout à fait moi, ça, les juste corps en léopard à paillettes, j'adore ça. Alors, les Gorgeous Ladies of Wrestling, qui peut être traduit en français par les superbes dames du catch. Et oui, pas les dames de la cantine, non, c'est autre chose. La série met en scène l'histoire fictive de la création d'une série éponyme réelle diffusée dans les années 80. Comme son titre l'indique, on y suit les aventures d'un groupe hétéroclite de femmes qui parviennent à trouver une forme de sororité en s'émancipant par la pratique du catch. La série livre un message positif avec une représentation inclusive de personnages féminins, d'âge et de corpulence différentes, tout en intégrant un discours intersectionnel. La série a une conscience aiguë de la puissance des stéréotypes et nous en montre la fabrication, mais aussi leurs conséquences. Les trois saisons sont à voir sur Netflix, et d'ailleurs, pas merci le Covid, puisqu'il devait y avoir une quatrième saison qui a été annulée. Donc voilà,
sniff. Non, pas merci, effectivement, mais pour une bonne dose d'années 80, l'avantage de cette série, c'est vraiment ce côté où on spectacularise la violence des femmes. On dit que oui, elle est possible, et surtout, elle est très cathartique. Alors, c'est une bonne base pour imaginer ce que ça pourrait faire de refuser la violence comme état de fait, comme quelque chose de normal. Et au contraire, de voir quelque chose de très, très, très jouissif, des femmes qui se défendent.
Avec des paillettes.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Et c'est l'heure de la rubrique Feu à volonté sur Charbons Ardents. Donc on vous propose aujourd'hui une analyse de mots, enfin aujourd'hui en fait, dans chaque émission. Un mot qui fâche, un mot incompréhensible dont on n'ose pas demander le sens, un mot qu'il faudrait remettre au goût du jour, ça va dépendre. Aujourd'hui, ce sera un mot qui fâche. Vous êtes sur Prune et on parle langage, culture et violence patriarcale, rien que ça.
Elle aimerait bien se faire violer, enfin pas vraiment violer. Elle aimerait que je la violente, que je la casse sans demander.
Alors aujourd'hui, en se basant sur ce magnifique extrait musical,
j'ai vomi dans ma bouche.
On va parler du très problématique emploi pronominal du verbe faire. Alors emploi pronominal, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est quand on rajoute les petits me, te, se devant un verbe pour faire entendre la double participation du sujet en fait. Donc pourquoi c'est problématique se faire ? Bah, il suffit d'écouter dans quel contexte on l'utilise. Alors, se faire des pattes, ça va, parce qu'on se fait des pattes à soi-même, on participe totalement et pleinement, et on est la personne qui va bénéficier de cette action. Mais alors, du coup, comment on peut se dire qu'on va utiliser à la fois se faire dans se faire des pattes et se faire violer, se faire tabasser, se faire cambrioler, se faire voler? Le gros problème de cette utilisation qui devrait être totalement bannie de notre vocabulaire, c'est que ici on fait totalement disparaître le coupable, le véritable sujet de l'action, la personne qui nous a violé, violenté, tabassé, cambriolé. Donc en faisant disparaître ce sujet du verbe, on montre la victime comme totalement responsable de l'action qui lui est arrivée, l'acte de violence qu'elle a subi. Et donc là, on retombe à nouveau dans cette fameuse culture du viol où ça relève de la responsabilité des femmes de s'éviter un viol en choisissant bien leurs vêtements, leurs heures de sortie et les lieux où elles traînent. D'ailleurs, c'est pas bien de traîner pour les femmes, hein, comme le montre le terme « traîner », mais ça, on en parlera une autre fois. De manière assez symptomatique, c'est marrant parce que justement, cette société, elle a tellement l'idée que la violence, c'est OK. que la subir, ça nous endurcit, que c'est une bonne chose et que plutôt que de remonter à la source de la violence et l'éradiquer, ben, il faut courber le dos et essayer de l'éviter par soi-même. On a cette magnifique expression, où on retrouve à nouveau se faire, dans se faire violence. Pour toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire, il faut se faire violence. Bah ouais, mais ce serait peut-être pas mal une société où il n'y a pas de violence en fait. Et on peut juste se faire des pâtes.
Et pour terminer avec cette émission de Charbons Ardents, on vous propose de vous constituer une petite boîte à outils de lutte. Parce qu'on n'a pas tous et toutes le temps, l'envie, l'argent de militer, de se lancer dans la politique ou de lutter avec son tonton bourré à Noël. C'est bientôt. Quelques alternatives pour vous impliquer à votre échelle, parce que le changement, ça commence déjà par soi.
Alors aujourd'hui, dans Mettre le feu aux poudres, notre outil de lutte, c'est la proposition de cours de MMA. Rien que ça, ici à Nantes, qui est réservé en cours non mixte aux femmes. Donc déjà, c'est quoi le MMA ? Mixed Martial Arts, c'est un mélange de différentes techniques de combat et de lutte. Ici, les cours dont on va vous parler sont assurés par Tévisset, qui est une pionnière du MMA en France, MMA tout court et puis MMA féminin, qui a longtemps travaillé à Paris et qui a désormais ouvert son cours ici au Parabellum Battling Club. Donc déjà, Tévisset, c'est une warrior de base. Et alors pourquoi ? Pourquoi faire des sports de combat quand on est une femme ?
Je suis en compagnie de Tévisset, coach de MMA devant l'éternel. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu ce que ça représente le MMA dans ta vie.
Le MMA, ça a été vraiment quelque chose qui m'a suivi très longtemps et qui me suit encore. Et contrairement à toutes les autres choses que j'ai pu faire, c'est quelque chose que j'ai vraiment approfondi. J'étais plutôt hyper active dans le sens où je commençais quelque chose et je le terminais jamais. Et le MMA, même si c'est une voie qui se termine jamais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'y suis encore, mais c'est vraiment une discipline dans laquelle je me suis investie sans me dire que ça allait durer si longtemps et donc je suis contente que ça ait pu me canaliser.
Est-ce que ça a été difficile de s'imposer dans un sport qui est considéré quand même comme très masculin ?
Alors à mon époque et dans le contexte, ça n'a pas été difficile dans le sens où j'étais très bien acceptée mais j'ai dû gagner ma place. Mais j'étais quand même bien accueillie, le prof que j'avais, Loïc Porra, lui avait exprimé un petit peu mes hésitations parce qu'il n'y avait pas de filles et qu'en plus à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde et les personnes qui étaient dedans c'était vraiment des gars. Voilà, c'était le cliché du combattant de MMA. Ils étaient tous grands, tous musclés, ils avaient l'air tous méchants. Bon, c'est pas ça qui me faisait peur, mais je me suis dit, comment je vais faire? En fait, c'est les questions aussi légitimes que se posent encore les filles maintenant. Est-ce que je vais pas déranger? Est-ce que je vais servir à quelque chose? Et puis il m'a dit tout de suite, t'inquiète pas, fais un cours d'essai et tu verras bien. Et effectivement, ça s'est très très bien passé. Le fait aussi d'avoir à prouver, à gagner ma place, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'était pas dur de se faire une place, mais il faut se la faire.
Alors aujourd'hui, tu proposes des cours de MMA en non mixité pour les femmes. Pourquoi est-ce que tu penses que ça peut être une bonne chose ?
Alors déjà, en fait, sur le terme de non-mixité, moi j'aime bien, plutôt que de pointer du doigt ce que je ne fais pas, plutôt ce que je fais. Donc moi je dis qu'on est une section féminine, parce qu'on est non plein de choses, on est non raciste, non mixte, non... Voilà, le terme de non-mixité, pour moi, il y a un non, un petit côté négatif, et moi j'appuie vraiment sur ce qui est positif. Donc on est une section féminine, et je l'ai créée parce que justement, le temps passant, je m'étais dit que le MMA se démocratisant, forcément il y aurait plus de filles et je voyais que pas du tout. Il y avait peut-être une fille qui venait et ne restait pas. Et à la suite de mon séjour au Japon, parce que quand j'ai combattu, j'ai passé un an au Japon, je m'entraînais avec beaucoup de filles. Et là j'ai vu que par contre ça changeait beaucoup l'ambiance pour moi. Quand j'étais en France, il n'y avait que des garçons, donc quand l'entraînement se terminait, j'étais dans un vestiaire et j'étais toute seule. Et voilà, le côté convivial, il était sur le tatami, mais en dehors, j'étais toute seule. Et quand j'étais au Japon, c'était vraiment très différent. J'ai connu la soralité, on est dans les vestiaires, on dit oh qu'est-ce que c'était dur, on parle de choses entre nous, voilà. Et en revenant en France, je m'étais dit que ça allait se faire naturellement et ça s'est pas fait. Et comme ça n'existait pas, il était temps de le faire.
En tant que coach, tu observes du coup des femmes évoluer petit à petit dans ce sport. Qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte ?
Déjà, c'est une section féminine ouverte à toutes et vraiment de tous les gabarits, de tout objectif, de tout passé. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, la pluralité des femmes. Une femme, c'est pas juste ça, c'est des êtres humains, on est très différentes. Et c'est ça qui m'intéresse déjà à la base, de se rendre compte que vraiment, il y a de tout et tout le monde se mélange. Et ce que je remarque après en premier, après quelques semaines de pratique, c'est vraiment l'attitude. La confiance, elle est pas loin à attraper en fait. Les filles arrivent un petit peu hésitantes, ce qui est normal parce que déjà d'une, elles connaissent pas forcément la discipline. Souvent, elles viennent pas des arts martiaux. Et puis voilà, c'est nouveau, donc on se connaît pas entre filles. Et puis après, elles apprennent à se se fréquenter. Et puis les sports de combat, ça unit très très vite, parce que donner un coup de poing sur quelqu'un et accepter de se prendre un coup de poing d'une autre, ça demande beaucoup de confiance. En fait, on se donne, il n'y a pas de phare, c'est tout de suite dans le concret, et tout de suite on doit faire confiance à l'autre, sinon on ne peut pas progresser. Et ça lie très très vite les filles. Donc on a une très grosse cohésion, et du coup la confiance, elle monte très vite. Et moi, ce que je remarque, c'est que tout de suite l'attitude en sortant et en venant à l'entraînement est très très différente. La posture est très très différente.
Tu m'as dit que toi, tu n'associais pas cette idée qu'on a beaucoup, c'est un peu un cliché, dès qu'on dit qu'on fait du MMA, dès qu'on parle du MMA, les gens en sont « Ah, mais c'est super violent, vous cassez pas le nez sans arrêt, vous cassez pas la figure. » Donc toi, c'est pas dans ta tête l'idée de violence que tu associes à ce sport. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu penses qu'on exprime une fois qu'on est sur le tatami ?
Alors, les sports de combat, c'est pas violent dans le sens où c'est encadré, c'est plutôt un endroit justement où on va mettre des limites, mais où on peut s'exprimer. Chaque être humain est très complexe, et on est par moments gentil, on est par moments méchant, on est par moments vicieux, on est par moments naïf, par moments calme, et on est par moments agressif. Pour moi, on peut pas nier toutes ces parties-là qui composent notre être, qu'on soit homme ou femme. Et surtout chez les femmes, on nous a appris, toute petite, à dire au parc, tu fais pas des choses dangereuses, tu vas te faire mal, tu vas te salir, attention ta jupe, tu peux pas faire de la balançoire, on va voir ta culotte. On est très restreint dès le début. On peut pas crier, on est sage, etc. Donc pour moi, le MMA, c'est pas de la violence, c'est un endroit où on va laisser s'exprimer notre animalité, ce qui est instinctif chez nous et qu'on a besoin d'exprimer. Si on l'exprime pas, quelque part, ça va partir en cacahuète dans un truc ou un autre, mais on pourra pas être sereine. Et justement, c'est pas violent, c'est des techniques de combat. On s'exprime via le corps, par des percussions, etc. Mais la violence se situe, pour moi, ailleurs, à l'extérieur, par des paroles, par des regards, de se sentir accepté, dénigré, infantilisé. Voilà, il y a une violence physique certaine, hein, quand on se fait agresser, c'est physique, c'est violent. Mais ici, c'est pas une violence physique. On apprend plutôt à gérer son corps et à se laisser s'exprimer. Et au contraire, plus il y aura de filles qui s'entraîneront en sport de combat, MMA ou autre, mais un sport d'opposition, plus on pourra gérer cette violence, nous la sortir, et puis dehors, en fait, oser s'exprimer, oser se défendre, oser se positionner. Mais ça, c'est vrai que c'est un long chemin. C'est pas évident, encore moi, ça fait peut-être 25 ans que je suis dans les arts martiaux, et il m'arrive encore plein de fois d'être dans des positions où je me dis, mais merde, je devrais ouvrir ma gueule, et je le fais pas. Donc c'est pas évident, mais voilà, il faut le faire. Et petit à petit, de toute façon, les choses changeront.
Il y a une règle dans ton cours, c'est que quand on s'excuse, on doit faire 10 pompes. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pourquoi ?
Alors cette règle-là a été amenée par 3 autres élèves, et en fait je les ai entendus dire « Oh mais t'as dit pardon, tu dois faire 10 pompes ». J'ai entendu ça d'une oreille parce que j'espionne tout le monde, et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement les femmes ont tendance à s'excuser en permanence pour rien, et d'autant plus à mon cours où on va se faire un peu mal. Or c'est cette gestion du mal qui est le propos dans mon cours, quoi. C'est apprendre à faire mal à quelqu'un, à le contrôler, apprendre à recevoir aussi cette douleur, donc on n'a pas à s'excuser. Et d'ailleurs on l'a fait quelques fois, il y a plus grand monde maintenant qui s'excuse.
Eh ben merci beaucoup Tévi, c'était hyper intéressant. À bientôt.
Eh ben oui, j'espère à bientôt, puis je vous invite toutes à venir au cours.
Et on va s'arrêter sur cette note de pure badasserie pour ce mois-ci. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Charbons Ardents sur Prune. Le mois prochain, on parlera plus spécifiquement du corps, le nôtre, mais est-il bien à nous ? Est-on toujours en pleine possession de ce qu'on met dessus, dedans et autour ? On évoquera la question du consentement, de la libre circulation des femmes dans l'espace public et des multiples injonctions qui pèsent sur ce petit royaume qui devrait pourtant nous appartenir. Le principe de l'émission, c'est avant tout de vous parler, à vous qui nous écoutez, mais aussi de parler de vous, par le biais d'un témoignage anonyme restitué en début d'émission. Alors si la question du consentement, des injonctions et de l'occupation de l'espace public te parle ou te concerne directement, viens nous en parler. Pour nous contacter, rien de plus simple, tout est indiqué sur le site de Prune, au bas de la page de l'émission. Et sinon, on se retrouve tous et toutes ensemble le jeudi 11 novembre à midi. Aucune excuse, c'est un jour férié. Alors, on vous dit à dans un mois.
Bye!
Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.